Panorama économique.
Bonjour messieurs, dames, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Les titres pour commencer. Panorama économique revient sur la table ronde des bailleurs de fonds à Kisangani. Elle a réuni plus de 200 participants, dont Congolais et étrangers. Une initiative du gouverneur de la province orientale avec l'appui du PNUD. La ministre belge de la région de Bruxelles, en échange de travaux, transports, ports de Bruxelles et politique de l'informatique a conduit aussi cette semaine à Kinshasa une mission économique d'homme d'affaires belge pour Brigitte Gouels, chef de délégation. Le but de la mission est de rendre possible les échanges commerciaux entre la Belgique et les milieux d'affaires congolais. L'association des vendeurs et consommateurs du Congo a tenu son assemblée générale jeudi à Kinshasa. Au centre de ses assises, la mise en application de la nouvelle structure des prix des denrées de première consommation. Et puis, matière première, nous allons parler du colis de 18 kilos d'or de Kibali Gold Mines, autrefois saisi au Kenya. Ce colis est remis à l'entreprise et son directeur général l'a confirmé à la presse mardi à Kinshasa. Panorama économique sur Radio Okapi reçoit pour vous Lambert Luhondo. Il est chef d'entreprise, la générale de technique et de construction. C'est lui qui commente et analyse l'actualité cette semaine avec nous. Monsieur Lambert, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bonjour et bienvenue. Ouvrons panorama économique par la province orientale où plus de 200 personnes, dont Congolais et étrangers, ont pris part à la table ronde des bailleurs de fonds. Elle est une initiative du gouverneur Jean Bamanissa dans le souci de mettre sur même table opérateurs économiques et bailleurs de fonds afin de trouver une issue aux différents problèmes de la province orientale. La Belgique y a amené à elle seule une trentaine d'hommes d'affaires et des investisseurs dans différents secteur. La société ITS, qui représente en RDC une firme belge basée à Louvain-la-Neuve, est également présente avec son apport dans le secteur de l'énergie. Aliana Ali Panagama.
Dans l'ensemble de la province orientale, le délabrement avancé des infrastructures routières est un véritable goulot d'étranglement pour les transports et les échanges commerciaux. Cette situation ne peut pas faciliter un bon climat des affaires et favoriser le développement de la province. À titre d'exemple, Charles Loutouta, coordonnateur de l'Agence pour la promotion des investissements et des financements de la province orientale, a évoqué les cas des coûts élevés des transactions, l'absence d'accès au financement et des tracasseries de tout genre. Cette problématique sera débattue au cours de la table ronde économique des trois jours qui commence ce mercredi à Kisangani, a dit Armand Kasumbo, ministre provincial en charge du plan. Elle va réunir près de 200 participants venus des quatre coins du pays et de l'étranger. Aliana Lipanagama, Kisangani, Okapi Économie.
Merci Aliana. Nous allons retrouver dans le studio de Panorama Économique l'autre invité, je l'ai annoncé tout à l'heure, Lambert Luhondo. Monsieur Lambert, bonjour encore une fois.
Bonjour Daniel.
Voilà, des rencontres entre les opérateurs économiques et les bailleurs de fonds pour tenter de sauver la province orientale, une initiative du gouverneur de la province. Et je crois que vous, en tant qu'opérateur économique, c'est une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose parce que moi-même, je suis membre. J'ai participé à plusieurs rencontres. Ces gens qui sont arrivés ici, les hommes d'affaires belges, ce sont les gens qui nous ont reçus au mois de juin en Belgique. Et quand ils sont arrivés ici, avant d'aller à Kisangani, on était avec ici à Kinshasa pendant des jours. Mm-hmm. On a travaillé. Je devrais me retrouver normalement, moi aussi à Kisangani. Mais je me suis fait représenter là-bas parce que j'ai signé deux contrats avec le BCECO. Donc c'est comme ça que je suis en train d'organiser l'installation du chantier dans les Bandundu. Mm-hmm. Et en plus, je dois aller à Tikwit pour voir un peu l'évolution des travaux de Madaël, parce que j'ai racheté la société Madaël, mais nous avons des petits coques sur les gens qui ont la mauvaise foi.
Bon, monsieur Milambert, je pense que nous allons revenir sur le rachat de Madaël par vous, mais je pense que quel peut être le bien fondé d'une rencontre comme celle-là qui s'est tenue cette semaine à Kisangani?
Non, le bien fondé d'abord, c'est l'échange entre les partenaires. Et vous allez voir que dans cette délégation, il y a aussi des financiers, des gens qui financent des projets. Il y a des gens qui ont des entreprises qui fabriquent des industries. Par exemple, moi, j'ai rencontré la société Rentec, que nous nous sommes attendus pour qu'ils puissent fabriquer les usines pour nous, pour Madaïl, donc pour la société que nous allons créer à Kikwit. Donc Rentec, c'est une grande société belge qui fabrique les usines de palme, facile à poser et à gérer. Donc c'est comme ça que c'est une bonne, très très bonne rencontre. Le gouverneur a eu l'initiative d'amener ces gens-là. Non seulement ils seront à Kisangani, dès qu'ils rentrent aujourd'hui, demain ils seront à l'Aliba Congo et après ce sera le tour
de Katanga.
De Katanga.
Donc c'est une bonne chose. Si peut-être les gens se posent la question, qu'on voit souvent des hommes d'affaires venir, mais on ne sent pas, on ne sait pas palper les résultats. Donc vous, Monsieur Lambert Luondo, vous êtes, disons, vous êtes le fruit. Vous avez goûté au fruit de ces rencontres entre les expatriés qui viennent et les Congolais.
Ça a commencé il y a longtemps. L'ambassade de la Belgique organise ça chaque année. Il y a des Congolais qui vont en Europe et moi j'y suis parmi de ces gens-là. Dans plusieurs domaines, infrastructure, santé, agriculture. Et chaque fois, à la fin de l'année, ce sont les Belges qui viennent ici pour prendre des contacts. Effectivement, beaucoup de gens parlent ici, croient qu'il n'y a pas
de retombées positives après ces rencontres.
Mais vous savez bien que nous venons de loin. Ces genres de rencontres sont très très importantes plutôt pour que nous puissions aller de l'avant. N'oubliez pas que la Belgique, c'est l'ancienne colonie.
Un autre dossier de la semaine, c'est cette Assemblée générale de l'Association des vendeurs et consommateurs du Congo, tenue ce jeudi à Kinshasa. Des assises au cours desquelles le ministre de l'Économie et Commerce a appelé les vendeurs et les consommateurs de la ville-province de Kinshasa à appliquer la nouvelle structure des prix des produits vivriers. Jean-Paul Nemoyato a également exhorté le syndicat à l'exercice du petit commerce par les nationaux. Paul Matindo.
La nouvelle structure des prix prévoit que les petits revendeurs ont 10% de la marge bénéficiaire du prix fixé pour les distributeurs. Par exemple, pour les cartons de Chinchard 16 plus de 30 kg, dont le prix prévu pour les grossistes est de 40,850 $ américains, les distributeurs le revendra à 43,245 $. Et le revendeur, lui, aura donc les 10% de ces derniers prix à la vente. Pour le vendeur, ce taux de 10% est faible lorsqu'on doit y insérer les autres coûts tels que la manutention et la TVA. C'est ce que pense Noël Boutiquet au marché central de Kinshasa.
Nous calculons les 10% en fonction du prix de revient ou du prix d'achat. Il y a des charges qui dépassent ce taux. À titre d'exemple, les collègues qui travaillent dans les chambres froides, quand ils vont s'approvisionner auprès des distributeurs, il y a les coûts de transport, les taxes. La facture d'électricité coûte déjà 1 million de dollars auprès des distributeurs. Ça dépasse largement ce qu'il faut payer.
Même réaction pour l'exercice du petit commerce interdit aux expatriés. Marie Suédé, présidente du syndicat des vendeurs au grand marché, estime que les expatriés exercent ces petits commerces avec la complicité de certaines autorités de l'État.
Lorsqu'il nous arrive d'aller dans d'autres pays, jamais un étranger ne peut se livrer au petit commerce. Mais dans le nôtre, lorsque nous essayons de dénoncer ce que font les étrangers, on se rend compte qu'ils sont soutenus par des députés, des généraux, des colonels, etc. Comment voulez-vous qu'on puisse penser à la misère de la population?
Pour sa part, Jean-Paul Nimoyato, ministre de l'économie et commerce, invite le secrétaire général à l'économie de veiller au contrôle des prix et à l'exercice du petit commerce par les nationaux.
C'est bien dit, le contrôle du petit commerce qui doit être une exclusivité pour les Congolais et la mise en application de la nouvelle structure des prix. Monsieur Lambert, vous êtes chef d'entreprise. Je pense que c'est un sérieux problème quand même, hein, le petit commerce par les Congolais et la nouvelle structure des prix, est-ce qu'elle sera respectée à la période où nous sommes, pendant la période où nous préparons les fêtes, la fin de l'année?
Comme je l'ai dit il y a de cela, je pense, 6 mois quand j'étais passé ici, les problèmes de contrôle des prix, c'était un problème très très sérieux, très délicat. Chez nous, les gens, chacun met les prix comme il veut, comme si dans ce pays, il n'y a pas un ministère de l'économie pour le contrôle. Je reviens encore pour dire que le ministre peut amener les syndicats, peut faire, mais le vrai problème, c'est organiser ces services de contrôle au niveau du ministère. Ces services ne peuvent émerger qu'avec des fonctionnaires formés, qui sont permanents
et conscients.
C'est à ce moment-là qu'on peut obtenir des résultats. Mais si le ministre le fait avec une équipe, ses conseillers, demain il va partir, celui qui va venir, il va remettre tout en cause. Nous connaissons bien comment est-ce que notre pays marche. Moi je pense que le ministre devrait commencer d'abord à organiser une structure des gens bien rodés, des fonctionnaires formés, peut-être il faut recycler, pour qu'ils puissent faire ce contrôle-là d'une façon permanente. Ça ne soit pas seulement la fin de l'année. Parce que ce qu'on va faire maintenant, ici, chacun achète, vous allez voir, je donne l'exemple des ciments. Moi, je suis un constructeur. Les ciments, nous, en termes techniques, on appelle ça liant. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas coûter. C'est 3 dollars au Maroc, en Chine, ici chez nous, c'est
20 dollars.
Et dans les provinces, là où nous construisons, on arrive à 30, dollars. 40, 50 même, du côté de Mbujimaï. Alors que c'est un liant. Un liant, donc, ne peut pas coûter aussi cher.
C'est à chaque province, plus vous vous éloignez de Kinshasa, le prix augmente.
Non, ça dépend même de chaque province, parce qu'au Katanga, ça coûte un peu moins cher qu'à Mbujimaï. Alors que les Katanga, Lubumbashi est très loin de Mbujimaï, par exemple. À Kisangani, ça coûte un peu moins cher par rapport à Bumba ou à Lissala. Parce que dans tous ces coins-là, nous construisons.
Donc c'est qu'il y a un problème de suivi, de contrôle des prix.
C'est ça que je suis en train de dire. Il y a un contrôle, un problème très sérieux. Il faut vraiment une très bonne organisation au niveau du ministère, que les ministres puissent avoir un service. Il y a des directions là-bas, je pense, qui peuvent bien s'occuper de ça. Mais ces gens-là, il faut les recycler et soient bien payés. Je pense qu'ils vont faire le travail et nous pouvons obtenir des résultats. Sinon, ça sert que les discours.
Et nous allons terminer cette première partie de panorama économique par Kinshasa, où le gouvernement a pris l'engagement de s'acquitter de manière régulière de ses dettes vis-à-vis de la SNEL et de la Régie des Eaux. Il vient d'ailleurs de payer un total d'environ 3 milliards 800 millions de francs congolais à ces deux entreprises au titre des factures des instances officielles. C'est le ministre délégué aux Finances qui l'a affirmé à Radio Okapi. Il réagissait ainsi au communiqué de l'ONG La Voix de Sans Voix qui appelait l'État à s'acquitter des dettes de la SNEL et de la Régie des Eaux. La Voix de Sans Voix estime que l'insolvabilité de l'État pèse lourdement sur le fonctionnement de ces entreprises. Cependant, le ministre délégué aux Finances estime, lui, que le vrai problème au sein de ces entreprises se situe plutôt au niveau de la gouvernance. Patrice Kitebi est joint au téléphone par Jocelyne Moussaoupondé.
Il y a eu des progrès importants au niveau de la Régie des Eaux. On a traîné longtemps à cause des pesanteurs à mettre en place le cabinet d'assistance technique qui nous aide à améliorer la gestion, notamment du recouvrement. Mais vous savez aussi que, par exemple, l'État, dans ces deux entreprises publiques, par exemple au niveau de la Régie des Eaux, c'est le quart des factures à payer. Ça signifie que quelque part, si le travail est fait correctement pour collecter et recouvrer auprès des trois quarts, une bonne partie du problème se trouverait résolue. Et ça, c'est un problème de gouvernance que nos entreprises toutes doivent résoudre très rapidement pour que nous soyons capables de faire face à nos engagements. D'abord au niveau de ces entreprises-là et entre l'État et ces entreprises. Il y a quelques années en arrière, grâce à des financements de la Banque mondiale, à des financements de la Banque africaine de développement, un montant de plus de 43 millions de dollars a été payé à ces deux entreprises. Il se trouve malheureusement que l'utilisation de ces fonds n'a pas toujours répondu aux priorités. Parce qu'on a bien vu que, malheureusement, pendant cette période-là, les entreprises ont continué même à accumuler des arriérés de salaires vis-à-vis de leur personnel, notamment de l'intérieur du pays. Donc la question de la gouvernance.
Retour dans ce studio de panorama économique où nous analysons l'actualité de la semaine avec Lambert Rouonto. Monsieur Lambert, bon, quand même, c'est un bon geste. Autrefois, les syndicalistes de la Régie des Eaux, surtout de la Régie des Eaux de la SNEL, se plaignaient du fait de l'insolvabilité de l'État. On ne veut pas rentrer dans le goudon, les discussions du genre gouvernance, tout ça, mais quand même, c'est bien de payer sa consommation et quand l'État paye sa consommation auprès de ces deux entreprises, c'est une bonne chose aussi.
Oui, nous, on ne pouvait qu'encourager.
Il faut encore payer davantage parce que ça pose un problème de dette intérieure de l'État congolais.
Oui, on a toujours dit que l'État était mauvais payeur, mais moi, je pense que nous sommes... C'est comme ça que la population admire cette équipe gouvernementale qui est en place. Ils arrivent à poser des actes sociaux que nous, les petits peuples, nous soutenons. Nous soutenons parce qu'on voit qu'il y a une première. Ça fait longtemps que l'État chez nous puisse payer facilement les dettes de la SNEL et de la Régie des Eaux. Mais là où je suis aussi d'accord avec le ministre, c'est le problème de pesanteur au niveau de ces entreprises. Quand on paye, il faut que cet argent-là puisse servir la population, améliorer la qualité des services de la Régie des Eaux et de la SNEL. parce que ce n'est pas seulement qu'on paye et demain on trouve que comme si rien n'a été fait. Et ça veut dire parler de 43 millions, c'est un problème très sérieux. Il faut qu'on, quand on paye, on doit, nous les petits peuples, on doit sentir que réellement il y a quelque chose qui a été fait, on nous améliore tout simplement la qualité des travailleurs et des services.
Il y a un problème de gouvernance aussi parce qu'on voit à travers la ville de fuites d'eau un peu partout et ça peut faire comme ça une semaine, l'eau est en train de couler, la régie des eaux ne vient pas réparer.
C'est ça que je suis en train de dire.
De gros manque à gagner aussi.
C'est que je pourrais.
Et que, alors que dans d'autres quartiers, dans d'autres coins, il n'y a pas une goutte d'eau dans le robinet, alors que dans d'autres coins, de l'eau des mètres cubes et des mètres cubes sont perdus.
C'est ça que nous demandons que ces entreprises. Bon, on ne sait pas la politique de la privatisation ou bien de diviser ces entreprises, voir il y a une direction qui doit être indépendante pour la gestion, pour la production. À ce moment-là, on pourrait voir qui fait quoi. Parce que aujourd'hui, c'est que tu dis les vrais, tu passes à Bandalonga, tu trouves un tuyau.
Une fuite importante d'eau.
Et quand tu vas à Salongo, voilà. Aller à Salongo, là, ça fait 4-5 jours, il n'y a aucune coupe d'eau. Alors, à ce moment-là, on se demande, mais pourquoi ça? Tout ça, c'est l'organisation. C'est comme ça que nous demandons au ministre, mais reste, merci beaucoup pour laisser le premier geste, mais vous devrez mettre une équipe, les suivis, pour voir si réellement l'argent qu'on a mis à la place sert à la population.
Matière première.
Kibali Gold Mines a récupéré son colis de 180 kilos d'or saisi par la police kényane. Le directeur général de cette entreprise l'a confirmé mardi à Kinshasa devant la presse, expédié à partir de Doko. Cet or transitait par Nairobi pour atteindre l'Afrique du Sud où se trouve le client principal de Kibali Gold Mines. Selon Luatum, il a été prouvé que ce colis évalué à plus ou moins 8 millions de dollars américains était certifié et les formalités remplies avant son exportation. On écoute le directeur général de Kibali Gold Mines dans ses propos recueillis par François Kadima.
Pour nous, c'est un colis, comme tout autre colis, bien que ce soit un colis de grande valeur, mais c'est une exportation qui se fait. Ça pouvait se faire par Lubumbashi, par la Zambie, par Dar es Salaam, ça pouvait se faire par n'importe quel port ou aéroport du monde. C'était ça notre lecture de la chose. Ce que nous avions peut-être sous-estimé, c'était l'emprise ou la valeur que ce colis représente et les convoitises que cela peut attirer. Donc c'était aussi une leçon pour nous. Mais vous devez comprendre aussi que l'or, généralement, nous essayons d'entourer ça de la plus grande discrétion possible pour des raisons sécuritaires. Ce qui était important pour nous, c'était veiller à ce que toute la documentation soit faite correctement. Nous avons fait des démarches pendant plus d'une année auprès de nos autorités ici à Kinshasa, parce qu'elles avaient beaucoup d'appréhension, beaucoup de réserves, compte tenu de notre position à l'est du Congo, pour autoriser cela. Cela a été autorisé moyennant des conditions très 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 sévères pour nous, à savoir qu'il y ait tous les services concernés déployés effectivement sur terrain, avec mandat spécial d'autoriser ces exportations. Je tiens vraiment à remercier le gouvernement. Tout le monde s'est mobilisé, que ce soit au ministère des Mines, au ministère des Affaires étrangères, le CEEC notamment. Ils ont tout fait pour donner toutes les assurances possibles dans les plus brefs délais, pour assurer les autorités kényanes.
Ce colis de 180 kilos d'or, rappelons-le, devrait rapporter au trésor public 280 000 dollars, équivalent à 3,5% de son prix de vente. Nous gardons notre invité et nous prenons le dernier tournant de Panorama économique, le reportage de la semaine.
Panorama économique, reportage.
Et nous allons nous rendre à Goma au nord Kivu pour parler de la paralysie depuis près d'une semaine du trafic entre la RDC et l'Ouganda à partir du poste frontalier d'Ishasha. Ceci est la conséquence de l'insécurité causée par les groupes armés basés dans le territoire de Rutshuru. C'est dans une pauvreté indescriptible que vivent depuis lors les habitants de la localité d'Ishasha, selon le reportage de Sifa Maguru.
Le marché principal des poissons salés qui s'est déroulé à Ishasha et qui facilitait les échanges commerciaux est délocalisé en Ouganda depuis lors. Les commerçants de Goma et Rutshuru, tout comme ceux de l'Ouganda, n'arrivent plus à Ishasha à cause des multiples pillages et barrières tenues par les différents groupes armés basés dans les Rutshuru. Du coup, cette localité se voit coupée de tout approvisionnement. Même la douane fonctionne aujourd'hui à 10% de ses activités habituelles. Pour se rendre à Goma, certains habitants d'Ishasha préfèrent passer par l'Ouganda et le Rwanda. Témoignage du président de la société civile locale, Tade Baramizi. Vous savez qu'une ville sans marché n'a pas de développement. Il n'y a pas de véhicules qui viennent pour amener de la marchandise ici parce qu'ils craignent l'insécurité sur la route. Les chauffeurs se font kidnapper et amener dans la forêt. Avant, pour aller à Kiwanja par moto, nous payons 12 dollars aller-retour. Mais aujourd'hui, nous dépensons jusqu'à 20 dollars. La vie devient très chère à Ishasha. C'est insupportable, disent les parents. Ces derniers demandent aux autorités de se pencher sur cette situation. Des retours de Ishasha, Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Merci beaucoup Sifamaguru. Bon week-end à vous, à Goma et tous ceux qui écoutent Radio Okapi dans le nord et le sud qui vous. Voilà, c'est par ce reportage que nous allons refermer Panorama économique. Mais avant de le refermer, nous allons nous tourner du côté de notre invité, Monsieur Lambert Luondo, qui commente l'actualité avec nous. Monsieur Lambert, voilà, est-ce que ça vous a dit quelque chose sur ce reportage de Goma où le trafic est perturbé?
Ah oui, vous savez que surtout dans des provinces où les provinces frontalières,
le trafic est
très, oui, oui. Ouais. Quand c'est perturbé, c'est vraiment la flambée des prix. Hein.
Okay.
C'est comme ça qu'il faut que l'autorité locale puisse faire tout pour que la situation redevienne dans la normale.
Ok, voilà. Et nous allons terminer Panorama par vous. Vous êtes un opérateur économique, vous êtes chef d'entreprise. Et à ce titre, vous venez de racheter la société Ex-Madaïl qui est basée dans le Bas-Congo, dans le Bas-Dundu, voilà, à Gungu. C'est ça?
Oui, à Gungu, Idiofa, Bulungu et Kikuit, les sièges sociaux.
Voilà, que faisait cette entreprise Madaïl et qui vous a convoité comme ça?
Oui, Madaïl, c'est une société portugaise créée par M. Jorge Madaïl en 1912 et qui était plantée dans les Bandundu, à Gungu, plus précisément le Chima qui tombait, à Idiofa, c'est Tangomango Yobala et dans les Bulungu à Mikolo, Mikolo Mikao, je pense, et à Bulungu, plus les sièges sociaux, c'était à Kikuit. Depuis 1983, c'est la faillite totale. L'entreprise était déjà organisée. On avait donné à M. Singa Oudjou et Paul Mouchette. Et après, le gouvernement avait récupéré. Depuis 1983, c'était vraiment l'abandon total. Un type qu'on avait envoyé là-bas pour liquider, lui, par contre, il a commencé à faire travailler nos parents sans les payer. Et jusqu'à tel point qu'il avait pris fuite, il est parti, soi-disant, en Europe chercher les partenaires. Et les gens sont restés comme ça.
C'est mais comment c'est arrivé que qu'on vous attribue cette entreprise?
Oui, depuis 2009, le gouvernement est en train de payer la dette intérieure, non, la dette, parce que nous, c'est un coup de chapeau à notre gouvernement. Depuis 2009, on est en train de payer les anciens propriétaires des entreprises qu'on les a réalisées. Soit on leur a demandé de reprendre ou que l'État paye et l'État va vendre. Pour le cas de Madaïl, les anciens, moi j'étais au Portugal, ces gens-là ont refusé de revenir. C'est comme ça que l'État a payé, mais il faut que nous, on paye.
C'est un bien que l'État a acheté
pour revendre. Ouais. Donc nous, on a payé à l'État. Je suis allé, j'ai fait toutes les formalités à l'OGDEP et j'ai payé. Je voudrais ici dire aux gens...
Est-ce que c'était une compétition ou seulement vous étiez seul?
C'était une compétition. C'était une compétition.
Oui.
J'ai eu de la chance que j'avais payé, comment est-ce qu'on appelle ça, le compte prévisionnel avant... Donc, 3 heures avant l'autre concurrent.
Ah, voilà. C'est pourquoi vous vous êtes attribué le marché.
C'est comme ça que 3-4 ans après, j'avais pris plusieurs missions à Kikuit, à Gungu, à Bulungu. C'est comme ça que le Premier ministre a autorisé au ministre de Finances de m'octroyer, réattribuer la société. Mais nous ne sommes pas arrêtés. Parce que quand on attendait la lettre, il fallait quand même travailler. Parce qu'en 2010, il y avait une société auvergienne, moi je suis membre d'une grande association, ils voudraient financer, quand ils sont arrivés, ils ont vu que la terre était très bonne, ils voudraient financer, mais on n'avait pas de documents. C'est comme ça qu'ils étaient partis. Mais moi, avec mes propres moyens, j'ai commencé d'abord les travaux à l'Ultima. Là, au moment où je vous parle, demain, je vais aller à l'Ultima. Nous avons planté 250 hectares de palmiers. Donc l'année prochaine, on en aura 500. Parce que les experts malaisiens et les Américains qui travaillent avec moi, ils voudraient d'abord s'assurer si les 250 hectares vont tenir. Et à ce moment-là, on va doubler l'effectif. Parce qu'à l'Ultima, l'objectif, c'est d'avoir 1000 hectares. Je vous ai parlé de Rentec. Nous voulons mettre des machines compétitives. Ce sont des machines qui produisent 5 tonnes à 20 tonnes d'huile par heure. Par heure. C'est comme ça que...
C'est que Madaïl ne faisait pas.
Non, c'est que Madaïl avait une politique de ramassage. Donc les gens coupaient dans des villages. Et je vous dis, moi-même, je suis un enfant de Madaïl. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est lui qui avait reçu ma DL en 1911. Mon grand-père était le premier chauffeur de baleinière vers les années 1925-1930. Gabriel Tondre. Donc tout le monde le connaît.
Donc Madaïl récoltait, ramassait les
dans les villages,
dans les villages,
les petites plantations.
Mais avec la nouvelle formule avec M. Lambert, il faut commencer par...
Non, chaque site doit avoir sa propre plantation. Mm-hmm. Nous avons 500 000 hectares de palmiers nains. À ce moment-là, nous allons remettre les mêmes systèmes comme Madaïl, parce qu'on a déjà commencé à réhabiliter les routes, les ponts, les mêmes systèmes comme des ramassages. Mais l'essentiel d'abord que nous-mêmes nous puissions avoir nos propres plantations.
Vous avez racheté Madaïl. Madaïl avait un personnel. Qu'est-ce que c'est que ce personnel devient?
C'est ça le vrai problème que nous avons. J'avais tenté une fois de rencontrer l'homme qui était là et il avait refusé. Ce sont des gens qui ont plus de 5 ans, 6 ans d'arriéré, qui ne sont pas payés. Je vous assure que Madaïl, c'était à peu près 6 ans.
6 ans. 5 ans, 6 ans.
Oui, oui. Donc, non, pas 5 ans, 6 ans. C'est depuis 1989 ou 83. Mm-hmm. Ces gens-là n'étaient pas payés. Mm-hmm. Ils sont morts dans la misère totale. Kabasso est mort ici. Tu n'as pas d'idée que c'était un haut cadre d'un directeur du siège d'exploitation de Madaïl, Issa Kinshasa. Il est mort dans la misère totale. Quand vous arrivez à Kikuiti, les papas Zinga, le Aloukou, tous sont morts dans la misère. Et aujourd'hui,
donc maintenant il faut donner de l'espoir.
Il faut donner de l'espoir
à cet agent-là.
Il y a des enfants qui sont là. Vous savez, la technique a ses caprices. Aujourd'hui, c'est la modernité. Ce sont des nouvelles machines. On va voir les enfants qui sont capables de faire quelque chose. Ils peuvent le faire. Et nous allons voir. Je vais parler avec mes amis, peut-être avec moi-même, avec mes propres fonds, voir comment est-ce qu'on peut soulager l'ensemble des parents qu'on a abandonnés comme ça. Qui ont fait plus de 5 à 6 ans sans être payés.
Monsieur Lambert, peut-être on va terminer par là. Votre première production, vous rachetez l'entreprise. Votre première production, vous l'envisagez pour quand?
Les palmiers que nous avions importés, ça avait le total de une année ici au Congo. Donc une année dans les polybacs. Et nous sommes en train de planter. C'est comme ça que le dimanche, je serai là. Ça va faire 3 ans. Nous aurons le premier régime. Donc, et avant 3 ans, donc nous sommes à 2013, à 2017, nous aurons les premiers régimes. Mais nous, déjà à 2017, début 2017 ou fin 2016, il y aura déjà l'implantation de la première usine à l'Outima.
Vous avez dit que vous avez racheté l'entreprise parce que vous avez compéti pour racheter Madaïl. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui qui pensent que tous les marchés publics aujourd'hui en RDC sont destinés à des expatriés? Est-ce qu'un Congolais peut aussi s'adjuger un marché public en RDC?
Oui. Vous savez, ça c'est l'appréhension que les gens donnent, mais ce n'est pas la réalité. Moi je suis un chef d'entreprise de construction, j'ai construit, je suis un ingénieur. Vous allez voir que nous soumissionnons au BCECO, au PARCE, partout à la Banque mondiale, l'Union européenne. On gagne le marché, mais il suffit de mettre le sérieux et d'être en ordre. Après son fisc, avoir l'agrément du ministère TPAT, payer l'INSS et être capable de réaliser les travaux. D'avoir une petite expérience. C'est de cette façon-là que nous gagnons des marchés. Là, je vais aller à Kikuiti, à mon retour. Je vais passer par Kolokoso et Popokabaka. Nous venons de gagner des marchés. Nous allons construire des écoles modernes là-bas. Et moi-même, je vais m'y mettre parce que ce sont des écoles neuves. C'est chez nous, dans les bandes d'Ondou, nous allons nous mettre pour que ces écoles-là soient construites correctement, avec à respecter toutes les normes.
C'est que le Congolais ne doit pas continuer à penser que le marché public de son pays est toujours destiné aux expatriés.
Non, c'est archi faux. C'est archi faux.
Ils disent aussi, bon, pour gagner un marché, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière vous qui vous tienne la main, qui vous présente.
C'est archi faux. Je dis bien que... Je donne l'exemple de BCECO. C'est une organisation, une institution bien rodée. Mais c'est comme si tu ne remplis pas toutes les conditions, tu ne gagnes pas les marchés.
S'il n'y a pas de sérieux non plus.
S'il n'y a pas de sérieux, si là on ne donne plus les BCC aujourd'hui, ne donne plus les marchés à n'importe qui. Il faut vraiment qu'on doit analyser. Si c'est pour la première fois, on doit descendre sur le terrain, regarder ton bureau, regarder tes réalisations. Si à ce moment-là, à l'issue de ça, on peut te donner un marché. Pour le moment, vraiment, il y a du sérieux. Mais les amis qui veulent, ils ne peuvent qu'à soumissionner. Nous, par exemple, pour l'achat de Madaïl, je n'étais pas seul. On était nombreux, mais j'ai la chance d'être retenu parce que j'avais rempli toutes les conditions.
Il faut être sérieux dans ce que l'on fait pour gagner des marchés publics aussi bien de son pays. Merci, Monsieur Lambert Luwonto, et c'est par là que nous allons terminer notre émission de cette semaine. En tout cas, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation.
Ah, c'est moi qui vous remercie.
Merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre écoute, de votre confiance à notre émission Le Panorama économique, qui est la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Votre émission est postée sur www.radiookapi. Jusqu'à la semaine prochaine, devant le micro, Daniel Tambinzoni qui vous dit au revoir, avec le plaisir de vous retrouver le samedi prochain.